Ah, bonjour. Comme Ouli nous a introduit aujourd'hui, effectivement c'est la Pentecôte, jour particulier, on se rappelle voilà, que Dieu nous a accordé son Esprit Saint pour nous équiper justement pour le servir, pour l'adorer, pour vivre la vie de disciple à laquelle il nous appelle. Et c'est justement avec cela que j'aimerais commencer. On connaît chacun tous des versets. Et j'aimerais vous en afficher un autre, hein, si ça marche. Bon, vous le connaissez par cœur de manière. Hein. Matthieu 28, 19-20. Vous le connaissez depuis l'école du dimanche, pour ceux qui ont été à l'école du dimanche, n'est-ce pas ? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dernière parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu, où il donne une mission à ses disciples, celle de parler de lui partout et à tous. Mais aussi, au final, donc de grandir en tant que disciple. Ce n'est pas seulement... Faites des disciples, ne vous écoutez pas de vous, mais chaque disciple est appelé à grandir, à être enseigné pour grandir dans sa vie de disciple, dans la compréhension de ce que signifie être un disciple. Et dans le thème que nous avons abordé ces deux derniers dimanches, le thème du travail, de notre activité quotidienne, pas seulement encore une fois cette activité rémunérée, mais cette activité qui occupe nos jours, cette activité qui peut être de prendre soin d'un enfant, d'un parent, d'aller effectivement à l'entreprise ou d'être bénévole dans une association, d'être retraité avec les activités que cela comprend. Que signifie être disciple dans ces activités-là ? Parce que Jésus veut qu'on soit ses disciples, partout, à chaque instant, envers tous. Qu'est-ce que ça signifie être disciple, grandir en tant que disciple dans mon travail ? Quelles sont les implications de l'Évangile ? Quelles sont les implications de la victoire de Jésus-Christ dans mon activité quotidienne ? Et les apôtres abordent cette notion à de nombreuses reprises, et je vous invite à le voir en Colossiens, où Paul nous en parle. Colossiens 3, et nous allons lire du verset 22 au chapitre 4, verset 1. Vous allez voir que ça ne parle pas forcément directement du travail. Parce qu'en fait, Paul va parler aux esclaves et aux maîtres. Donc, une situation qu'on ne connaît plus actuellement. Et donc, on va pouvoir se poser cette question légitimement. Est-ce que ça me concerne moi aussi ? Mais il faut se rappeler effectivement que Paul parle des esclaves qui sont privés de leurs droits. En fait, qui sont seulement considérés comme des outils. Mais contrairement à une pelle, contrairement à un râteau ou à une éponge de cuisine, ce sont des outils qui bougent. D'accord ? C'est un peu ça leur statut à cette époque-là. Donc, on est très loin de notre notion de contrat, de syndicat, etc. On est aussi dans ce cadre particulier de la maisonnée. Les esclaves travaillaient dans la maison de leur maître. Pourtant, à ces esclaves qui sont dans une situation difficile, pénible, bien particulière, Paul leur dit, pour vous aussi, l'Évangile a des implications. Pour vous aussi, l'Évangile a des implications dans votre manière de servir, dans votre manière de travailler. Donc si c'est le cas pour ces, excusez-moi l'expression, outils mobiles, à quelle plus forte raison ça l'est pour nous aussi qui avons le privilège d'avoir un contrat qui nous protège avec des syndicats et des lois, etc. D'accord ? Donc c'est aussi de cela, on va regarder ce que Paul leur dit et comment on peut l'appliquer à nous aujourd'hui, tout ça dans le but d'être les disciples que Dieu veut, équipés par le Saint-Esprit, pour l'honorer aujourd'hui. Ça marche ? Alors je lis à partir du verset 22. Serviteur, même terme que esclave. Obéissez en tout à vos maîtres, selon la chair. Et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice. Et il n'y a pas de considération de personne. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Paul dit à ses esclaves, à ses maîtres, que l'évangile doit avoir une implication dans leur vie. Et quelle est cette implication pour nous qui sont dans une position bien plus favorable et confortable qu'eux ? Première chose que Paul dit, c'est que l'évangile nous donne un nouveau patron. L'évangile nous donne un nouveau patron dans notre activité au travail. Et ce patron, c'est Jésus. Et cela ressort très fortement des quelques versets que nous avons là. Sur les 6 versets, cette fois, Paul utilise ce terme « maître ». Et c'est exactement le même terme qui est utilisé pour dire « maître » ou « seigneur ». Quand il parle du Seigneur Jésus-Christ, c'est exactement le même terme qui est donné pour le maître terrestre. Et sur ces 7 fois où ce terme « maître » ou « seigneur » est utilisé, 5 fois, il est appliqué à Jésus-Christ. Et seulement 2 fois au maître terrestre. Donc, Paul utilise ce même terme pour faire ressortir la chose suivante. Quand nous sommes convertis, quand on a accepté l'évangile de Jésus-Christ, quand on a placé notre foi en Jésus-Christ, en fait, on a gagné un nouveau patron. On a gagné un patron supplémentaire, un patron qui est encore au-dessus de notre patron, de notre maître terrestre. Et le grand patron, même au travail, c'est Jésus-Christ. Dans notre activité séculière. Cela sans changer de travail, il n'y a pas besoin de démissionner, de changer de travail. Cela même, si on garde la même activité, je vais toujours enseigner mes élèves, je vais toujours fabriquer du fromage, je vais toujours soigner les malades, je vais toujours vendre des chaussures, mais j'ai un patron en plus. Et ce patron qui va me conduire pour bien vendre mes chaussures, pour bien soigner mes malades, pour bien faire mon fromage, ce patron, c'est Jésus-Christ. Et il dit exactement la même chose au maître. Ce n'est pas seulement pour les esclaves qu'ils ont un patron, mais il dit la même chose au maître terrestre. Vous les maîtres, il dit, sachez, comprenez bien que vous n'êtes plus la plus haute autorité. Il y a une autre autorité maintenant au-dessus de vous. Vous, en fait, en vous convertissant, vous avez été rétrogradé. Vous avez perdu une place. C'est plus vous la haute autorité. Maintenant, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Ce n'est pas très récent, je suis désolé, hein, pour les jeunes. C'est un film intéressant qui nous parle en fait du trafic d'armes. Il est vraiment très intéressant. Ça vaut le coup de le voir, même si malheureusement, il y a quelques scènes de sexe, vous pourrez passer rapidement. Mais le personnage qui est joué par Nicolas Cage a une tradition juive et il prend l'habitude de toujours porter un chapeau. À un moment donné, son frère lui dit « Mais franchement, arrête de faire le juif, on n'est pas juif. On n'a jamais été juif dans la famille. Donc pourquoi tu portes toujours ce chapeau ? » Il dit, en fait, je porte toujours un chapeau parce que je veux me souvenir d'une chose. C'est que sur ma tête, il y a quelqu'un. Alors, il ne le vit pas du tout dans sa vie. Mais c'est ce principe de se rappeler, au-dessus de moi, il y a quelqu'un et je ne veux jamais l'oublier. Et c'est ce que Paul nous dit ici. Vous, les esclaves, et vous, les maîtres, les possesseurs d'esclaves, n'oubliez jamais ceci. Au-dessus de vous, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Rappelle-toi, que tu sois employé, que tu sois cadre, que tu sois capitaine d'industrie, que tu sois parent au foyer, que tu sois bénévole dans une association, tu as un nouveau patron. Et ce patron, c'est Jésus-Christ. Et Paul insiste encore lourdement et fortement dessus, verset 24, à la fin du verset, « Servez Christ !» Le Seigneur, servez Christ, le Maître, autrement dit, n'est-ce pas ? Et encore une fois, on a cet impératif ici. Que notre tâche soit facile ou pas, qu'elle soit plaisante ou pas, qu'elle soit bien vue ou pas, servons Christ, celui qui est venu au nom de Dieu pour nous réconcilier avec Dieu, mais pour tout réconcilier avec Dieu, c'est-à-dire pour réconcilier aussi notre manière de travailler avec Dieu, qui est venu pour réconcilier notre rapport au travail avec Dieu. Et dans cette expression, le verbe « servir » que Paul utilise est intéressante à plusieurs niveaux. Premièrement, c'est de ce verbe que le terme « esclave » du verset 22, « serviteur » ou « esclave » est tiré. C'est exactement la même racine. Donc Paul insiste fortement pour nous dire qu'en tant qu'esclaves, nous ne sommes pas simplement les esclaves d'un maître, nous sommes avant tout les esclaves de Jésus-Christ. En nous convertissant, nous avons changé de patron, nous avons changé de maître, c'est à lui que nous appartenons maintenant et c'est lui que nous voulons servir dans notre activité. Mais deuxièmement, ce verbe est utilisé dans plusieurs autres cadres par l'apôtre Paul. Par exemple, il utilise ici en acte, alors que il fait son discours d'adieu aux anciens d'Éphèse, il leur dit ceci, lorsqu'ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit, donc quand les anciens d'Éphèse furent arrivés à Milet auprès de Paul, il leur dit, « Vous savez comment je me suis tout le temps conduit avec vous. Depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie, j'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs. J'ai servi, même terme qu'être esclave, pour dire j'ai servi dans la mission. » J'ai annoncé, j'ai évangélisé partout et à tous. Et j'ai servi l'Église. Même chose encore, Galates 5:13, grande conclusion, grande conséquence ici de la liberté que Dieu donne par l'Évangile en Jésus-Christ. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres, même terme, encore une fois. Cette manière de servir Dieu, c'est en servant les frères, en travaillant à l'édification de l'Église. Autre cadre dans lequel Paul l'emploie, Thessaloniciens, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Autrement dit, pour adorer, pour changer de vie. Et dans ces différents cadres, Paul utilise en fait ce verbe, ce même verbe de servir, d'être esclave de, avec la même force. C'est avec la même force, avec la même intensité que, d'une manière, vous servez Dieu en l'adorant, peut-être en le chantant, en vous réunissant pour servir le Dieu vivant et vrai. Avec cette même force, vous servez les frères et les sœurs. Avec cette même force, vous servez Dieu dans la mission, en évoluant, en partant au loin pour implanter de nouvelles églises. Mais de la même manière, avec la même force, vous servez Dieu dans votre travail. Vous servez Dieu en tant qu'esclave. Donc, Paul est en train à nouveau, une fois, de casser toutes les barrières qu'on aurait tendance à mettre dans notre vie chrétienne. Notre travail, aussi pénible soit-il, et c'était franchement le cas ici pour nos esclaves, ce travail fait partie de l'adoration, de la mission, du service, du témoignage à Dieu, pour Dieu, envers Dieu. Donc pas de coupure, de césure entre notre relation avec Dieu, notre vie chrétienne et notre travail. Comme nous sommes à l'Église aujourd'hui, soyons de même demain au travail. Et comme nous avons été vendredi au travail, ou peut-être hier pour ceux qui ont travaillé, soyons maintenant de même à l'Église. Pas de différence. Si vous levez les mains à l'Église quand vous parlez, levez les mains quand vous parlez au travail. Si vous avez le grand sourire le dimanche matin à l'Église, et le grand sourire le lundi matin au travail. Donc, autrement dit, pas d'hypocrisie, pas de double jeu, pas de dichotomie. Nous servons Dieu, nous adorons, nous témoignons de Dieu dans notre travail. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est en fait le patron ultime. Et cela change tout, nous dit Paul. Et effectivement, l'Évangile transforme notre attitude et notre motivation au travail. Et Paul commence de manière très forte, n'est-ce pas, verset 22, « Serviteurs, obéissez !» Obéissez. Et il parle à des esclaves qui sont parfois maltraités. Obéissez en tout. Et pas ce qui vous arrange. En tout. L'Évangile ici transforme en fait notre rapport à l'autorité. Nous sommes dans une culture, dans un temps qui a horreur de l'autorité. Elle est rejetée, elle est constamment en fait regardée comme suspecte, comme pervertie, comme abusant de sa position, opprimant les personnes. Et c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas, pour nos autorités politiques. C'est en général ce qu'on dit aussi pour notre patron, n'est-ce pas. C'est aussi en général ce qu'on dit pour les anciens dans l'Église. Je vous promets. En fait, on n'aime pas l'autorité. Et si, et puis c'est ce qu'on dit pour les parents aussi, hein, au passage. Et si on accepte un tant soit peu l'autorité, quand on va aborder le sujet de l'autorité, tout de suite, ce qu'on va dire, c'est « oui, mais !» N'est-ce pas ? « Oui, oui, il faut respecter l'autorité, mais... » « Mais... » « Mais quand telle ou telle exception, quand elle fait telle ou telle chose... » Et c'est vrai qu'il peut y avoir abus. Et c'est vrai qu'il y a oppression parfois par ceux qui sont en position d'autorité. Mais vous savez quoi ? C'était aussi vrai du temps de Paul. C'est pas quelque chose de nouveau. En fait, il y avait même plus d'abus au temps de Paul. Parce qu'il n'y avait pas les lois qui donnaient une égalité normalement à tout le monde. Les droits de l'homme et du citoyen n'existaient pas à l'époque. C'était les droits du Romain et du Romain. D'accord ? Et pourtant, Paul nous replace dans ce cadre d'autorité en nous rappelant l'autorité vient de Dieu. Et alors, il nous dit « obéissez en tout ». Et si on regarde bien, verset 17, c'est une application concrète de ce verset 17. « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Faites tout, notamment au travail, dans votre rapport à votre patron, à votre maître, dans ce que vous faites. Donc au lieu de tout de suite parler des exceptions que nous citons, Paul nous rappelle d'abord le grand principe. L'autorité vient de Dieu, obéissez. Obéissez. Alors il est clair dans son discours que si l'autorité va plus loin que ce que Dieu veut, alors oui, là on a le droit de désobéir, mais par acquis de conscience. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus-Christ le grand patron, donc on obéit au grand patron. Mais comme le grand patron nous a donné des petits patrons, on obéit au petit patron que le grand patron a donné. Ça va ? Et Paul qualifie alors cette obéissance maintenant. Premièrement, de manière négative, verset 22, « Cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes. » Et il continue avec une description de manière positive. « Mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Non seulement sous leurs yeux, ne travaillez pas pour les yeux du maître. Ne travaillez pas pour les yeux du patron. Ne travaillez pas quand vous êtes regardé, en fait. Mais travaillez de manière honnête, vraie, entière, totale, tout le temps. Pas de travail superficiel et pas de lèche-botte. Mais au contraire, avec générosité, avec cette conscience d'un travail bien fait. Et remarquez comment Paul en parle. Avec simplicité de cœur et de toute votre âme. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? D'autres passages dans la Bible ? De travailler avec simplicité de cœur, de tout notre cœur et de toute notre âme ? C'est le premier commandement, n'est-ce pas ? Premier commandement. Si tu veux vivre le premier commandement, vis-le dans ta manière de travailler, en servant le patron que Dieu t'a donné. Et là, tu seras vraiment un disciple du Seigneur que tu aimes. Comme nous aimons le Seigneur avec tout notre être, avec tout ce que nous sommes. Tout... Le cœur, ce n'est pas nos émotions. Hein. C'est aussi nos émotions, mais aussi notre volonté, notre intelligence, toute notre intériorité. Donc contrairement à un travail superficiel, un travail motivé par la simple nécessité ou l'obligation, Paul nous appelle à une conscience du travail bien fait, à un service joyeux dans lequel nous mettons toute notre attention, nos compétences et nos savoir-faire. Et Pierre rajoutera, je vous laisse voir dans la première lettre que Pierre a écrite au chapitre 2, il nous dit de se faire cela même si le maître est difficile. Même si le maître est difficile. Et difficile à l'époque voulait dire aussi qu'il nous frappe, qu'il abuse. D'accord ? Pourquoi ? Parce que nous servons le Seigneur comme pour le Seigneur. Alors en pratique, ça pourrait donner quoi pour nous ? Qu'est-ce que ça voudrait dire de servir notre patron, de nous investir dans notre travail comme pour le Seigneur, au travers de notre travail, servir Jésus-Christ, de tout notre cœur, de toute notre âme. Je pense d'un premier temps, ça veut dire bien utiliser notre temps. J'ai le privilège que vous me faites confiance. Personne ne vérifie mes heures de travail, n'est-ce pas ? En tout cas, que vous le sachiez, les anciens ne vérifient pas mes heures de travail. Vous pouvez leur demander de le faire si vous le voulez, il n'y a pas de problème. Mais ils ne le font pas. Et pour quelqu'un qui travaille indépendamment ou à qui on fait confiance, une des premières choses aussi en pratique de bien honorer le Seigneur, de bien servir ceux qui l'emploient, c'est de bien utiliser notre temps et de travailler tout le temps pour lequel nous sommes embauchés et de ne pas utiliser notre temps de travail pour faire autre chose. Par exemple, pour aller tout le temps là-dessus. Qui franchement, c'est un bon truc pour perdre le fil de nos pensées, notre réflexion et notre motivation et notre attention, n'est-ce pas ? Et c'est vrai, ouais, j'avoue, hein, quand j'attends un message, je vais vite regarder, mais le temps de se remettre dans l'étude, le temps de se remettre dans la réflexion ou dans la prière ou de parler avec quelqu'un, ça nous détourne et ça prend du temps, n'est-ce pas ? Et parfois, il faut se discipliner pour dire non, je dois bien utiliser mon temps, on me fait confiance et je dois veiller à cela. Donc, je me donne des horaires pour regarder les messages et pas avoir tout le temps mon œil là-dessus. Parfois, ça peut être autre chose, être honnête au travail, dans notre rapport au matériel qui nous est confié. J'avais des amis qui travaillaient à Peugeot en France. Ils disaient, voilà, notre patron ne paye pas beaucoup, donc je prends des outils. Je prends les outils de Peugeot, parce que franchement, c'est de la bonne qualité. Et puis, ça complète mon salaire, de ce qu'il me devrait. Mais là, on se prend pour le patron. Et on vole le patron. De négliger certaines tâches. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, quand vos parents vous demandaient de faire votre chambre. En général, quelle est la partie que personne ne faisait ou alors, plutôt, quand vous voulez être plus rapide, où c'est qu'on rangeait toutes les choses ? Sous le lit, n'est-ce pas ? Et parfois, on néglige certaines choses, n'est-ce pas ? Aussi, parfois, dans le travail, c'est pas important, personne ne va le voir. Si, il y a un autre patron qui va le voir. Ne négligeons pas notre travail. Alors, c'est vrai, en disant cela, on ne peut pas faire tout picobello pour reprendre une expression actuelle, parce que cela est impossible, mais ce n'est pas une excuse pour négliger notre travail. Ou pour l'ambiance au travail. Est-ce qu'on contribue à la paix ou on travaille à la critique ? Est-ce qu'on apporte une bonne relation, une bonne ambiance ou on contribue à pourrir l'ambiance ? Mais franchement, pourrir, c'est facile. Sérieux, c'est extrêmement facile. Mais contribuer à la paix, ça, c'est autre chose. Arrêtez les critiques. Arrêtez de critiquer le patron. Parce que, bon, en tant qu'employé, c'est normal de critiquer le patron. Mais pouvoir dire, hey, il fait son boulot, et de prendre sa défense. Ou le prendre la défense du souffre-douleur ou autre. Et Paul va encore plus loin dans notre texte pour nous motiver toujours plus à bien travailler. Verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Verset 25. Car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice. Paul est en train de nous placer ici dans une perspective future. Et il nous rappelle en fait de la gloire à venir dans la présence de Jésus-Christ dans son retour. Et quand Jésus-Christ va revenir, il va regarder aussi notre travail. Aussi notre manière dont on l'a servi dans notre activité quotidienne, manuelle, artistique, bénévole, non bénévole, rémunéré, non rémunéré. Il va aussi regarder cela et il va l'évaluer. Et Paul nous dit, vous recevrez l'héritage où vous récolterez selon votre injustice. Et Paul nous appelle ici à un grand sérieux. C'est que ça compte vraiment aux yeux de Dieu. Mais d'une part, il y a quelque chose d'extrêmement réjouissant dans ce qu'il nous dit. Autant le travail peut être pénible et difficile, autant on n'aura jamais d'encouragement. On sera parfois peut-être maltraité, c'était le cas des esclaves ici. Et ils pouvaient même ne jamais être encouragés, ne jamais espérer recevoir quelque chose de bien de la part de leur maître. Mais Paul leur dit, le grand patron, le grand maître, lui, va vous donner quelque chose de bien. Autant vous ne pouvez rien espérer des hommes, mais Dieu voit votre travail et il vous donnera votre héritage en récompense. À cause de cela, persévérez aujourd'hui dans votre travail. Mais pour ceux qui travaillent mal, il y a aussi cet aspect de l'injustice. Il récoltera selon sa injustice. De quoi Paul parle exactement, je ne peux pas le dire, pour être honnête. Mais il y a clairement un avertissement. Et Paul est en train de nous dire, quand même, que notre manière de travailler démontre, ou pas, notre appartenance à Jésus-Christ. Dans notre manière de travailler, dans notre sérieux au travail, dans nos relations au travail, les autres pourraient dire, toi, tu as quelque chose de plus. Toi, tu es différent. Tu es bizarre. Et peut-être qu'ils vont le dire de manière négative. Mais s'ils le disent de manière négative, parce qu'on honore Dieu, c'est très bien. Mais Paul est en train de nous dire, on doit voir cette différence. Il va même repousser toute tentative d'excuse. Dieu ne fait pas de considération de personne. Ce n'est pas parce que tu es maître que tu as le droit d'abuser. Et Dieu ne va pas plus favoriser les maîtres ou plus les enfoncer parce qu'ils ont été des maîtres. C'est la responsabilité qu'il leur a donnée. Mais il ne va pas non plus excuser les esclaves. Ce n'est pas parce que le statut d'esclave est dur que Dieu autorise à faire le mal. Ce n'est pas parce que le travail en usine ou qui nous est donné, qui est moins vu dans notre société, est difficile, pénible et qu'on en a marre, que Dieu va plus nous donner d'excuses pour notre sale attitude, pour notre négligence. Mais il nous appelle à bien travailler. Il est juste et il jugera tout le monde selon son attitude. Donc voilà ce qui devrait être notre motivation ultime en fait pour bien travailler. Ce n'est pas notre salaire, ce n'est pas les applaudissements du patron, ce n'est pas les remarques des collègues, ce n'est pas la reconnaissance au travers de ce travail, mais c'est le regard de notre grand patron. Et c'est la récompense qu'il va nous donner. Et cette récompense ne nous prive pas, l'héritage à venir, la gloire à venir ne nous prive pas de bien vivre maintenant. Au contraire, elle est là pour nous permettre de bien vivre maintenant dans le concret de notre activité quotidienne. À cause de cela, je pense que les chrétiens devraient être les meilleurs employés de leur entreprise. Ça ne veut pas dire les plus compétents. Ça ne veut pas dire ceux qui rapportent le plus à l'entreprise. Mais en termes d'attitude et de travail bien fait, c'est eux qui devraient être les meilleurs. Motivés par personne d'autre que par Jésus-Christ. Et l'Évangile transforme aussi notre gérance au travail. Chapitre 4, verset 1. « Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. » Sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. L'Évangile transforme notre rapport à l'autorité, non seulement quand nous sommes esclaves, quand nous sommes employés, mais notre foi en Jésus-Christ transforme aussi notre rapport à l'autorité, aussi quand nous sommes patrons, quand nous sommes en situation, en position d'autorité. Parce que Paul nous rappelle ici, même si c'est moi qui ai construit la boîte, je ne suis pas le grand patron. Et au final, au travers de cela, quelque part, Paul est en train de nous replacer dans le jardin d'Éden. Vous êtes des gestionnaires. Et c'était la fonction, le rôle d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden, d'être des gestionnaires des biens que Dieu a créés. Et Paul dit ici au patron, vous êtes des gestionnaires des biens qui appartiennent à Dieu, que ce soit du matériel ou que ce soit aussi des personnes. Vous êtes gestionnaire et rien de plus. Le statut de patron n'est pas là pour nous donner de la valeur. Il n'est pas là pour rechercher notre gloire, pour tirer un profit personnel, ni pour la reconnaissance. Mais nous sommes là pour gérer les biens du grand patron. Et encore une fois, c'est vrai, si on est le patron à la maison, en tant que parent au foyer, ou en tant que retraité, c'est vrai aussi si on a la responsabilité d'une association en tant que bénévole, on est là en tant que gestionnaire des biens que Dieu a donnés. D'où cet appel à être juste et équitable. Juste et équitable, ça veut dire quoi ? Au minimum, ça veut dire reconnaître la valeur intrinsèque de chacun de nos collaborateurs, quel que soit son statut. Que ce soit celui qui fasse le ménage, que ce soit le directeur de Rolex ou n'importe quel autre, il a une valeur intrinsèque, celle d'être créé à l'image de Dieu. On ne doit plus le regarder comme un simple outil animé, comme on regardait les esclaves de l'époque. Mais il est celui que Dieu a créé, celui que Dieu aime, et il l'a fait à son image. Être juste et équitable veut aussi dire ne pas marcher en fonction de la tête du gars, ou de la fille, pardon. Pas de favoritisme, pas de préférence en fonction des amitiés ou autres. Et ça, c'est vrai dans tous les milieux. Dans une église que j'ai connue quand j'étais plus jeune, il y a une personne qui était ancien et qui n'était pas qualifiée pour être ancien et qui a fait parfois plus de dégâts qu'autre chose. Mais elle était ancien, pourquoi ? Parce que c'était l'ami du pasteur. Et ça fait des dégâts. Pas de favoritisme, pas en fonction des amitiés, mais en fonction de ceux qui sont. Soyez justes et équitables, en fonction du travail effectué, des bonnes attitudes, d'une bonne démarche relationnelle, des bonnes compétences. Et ça veut dire aussi, pour aller sur un thème qui est très présent, que ce soit un homme ou une femme. Soyez justes et équitables. C'est aussi reconnaître leur travail, leur effort et le payer à sa juste valeur. Mais ça veut dire aussi parfois prendre des mesures disciplinaires, n'est-ce pas ? Être juste et équitable veut aussi dire, mon ami, ce que tu as fait là, ça ne va pas. Et dans un premier temps, ça peut être un avertissement, mais jusqu'à aller renvoyer la personne pour donner le travail à quelqu'un qui veut travailler. Dieu donne des fonctions d'autorité pour accompagner, pour diriger et prendre soin. Et parce que Dieu ne fait pas de considération de personne, alors le patron, quel que soit le patron actuellement sur terre, aura des comptes à rendre à Dieu sur sa manière de gérer l'équipe qu'il a. Ainsi, que ce soit dans la direction ou dans le service, le croyant sert Jésus-Christ au sein de son travail. Et cela pour la gloire unique de Jésus-Christ. Donc Paul nous rappelle, l'évangile transforme en fait toute notre vie. Ne regardons pas seulement les applications quand on se retrouve entre chrétiens, mais tous les domaines de notre vie, y compris notre travail. C'est là que Dieu nous appelle aussi à être des disciples. Des disciples qui aiment le Maître, des disciples qui servent le Maître, des disciples qui reflètent le Maître. Il est venu pour nous sauver de fond en comble, et pas seulement dans notre relation avec notre Créateur. Et ce qui est assez étonnant, c'est que Paul parle ici, même dans un système qui est assez horrible de l'esclavagisme, n'est-ce pas ? Et Paul ne dit pas, maintenant que vous êtes chrétien, faites péter l'esclavagisme, d'accord ? Vous êtes tous frères et sœurs. Il dit dans des passages, n'est-ce pas ? Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni maître, ni esclave. Mais c'est-à-dire, dans notre relation avec Dieu, ce n'est pas notre statut qui compte. Dans nos relations aussi, ce n'est pas notre statut qui compte. Mais maintenant, dans notre rapport à la société, faisons-le bien. Travaillons bien. Gérons bien. Mais Paul est en train de dire, non pas d'envoyer le système qui est mauvais à l'écart, mais de le transformer par l'intérieur, par d'autres attitudes. Par des attitudes renouvelées par l'Évangile. Et effectivement, l'esclavagisme a éclaté grâce à l'Évangile. Et on parle de l'esclavagisme ancien, mais aussi l'esclavagisme de la traite noire, c'est grâce à des chrétiens qui sont investis et qui ont compris l'évangile qui ont pu faire éclater cet esclavagisme-là. Et de la même manière, Dieu veut continuer à agir aujourd'hui dans notre société, par ses disciples qui lui confient toute leur vie, aussi leur vie au travail. Et regardez le cadre plus grand dans lequel Paul place cela. Chapitre 3, verset 1. « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. » Alors, il ne dit pas pour ça d'être la tête dans les nuages, d'être exalté, éthéré, en extase. Mais cherchez ce qui compte aux yeux de Dieu. Cherchez à vivre selon le projet de Dieu et vivez-le les pieds sur terre, dans votre quotidien, au travail. Donc, cherchez les choses d'en haut, vivez les choses d'en haut en les vivant, en les appliquant ici. Et dans le texte parallèle, en Éphésiens, on aurait pu prendre celui-là. Mais ce qui est assez étonnant, c'est comment encore une fois Paul ouvre ce grand thème-là. Et en fait, il est en train de nous parler comment Dieu nous équipe pour vivre cela. Éphésiens 5, je vais lire à partir du verset 15. « Veillez donc avec soin sur votre conduite » ou sur votre marche. Hein, c'est le thème qui revient dans l'épître aux Éphésiens régulièrement, qui structure cette lettre. « Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. » Soyez remplis de l'Esprit. On célèbre aujourd'hui le fait que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. On rappelle qu'il est venu pour habiter en nous. Et Paul nous dit que le Saint-Esprit nous a été donné, effectivement, pour être les témoins de Christ partout où nous vivons, que le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions être réconciliés, avoir cette présence de Dieu, selon le projet de Dieu, d'habiter au milieu de son peuple, mais il nous dit aussi que le Saint-Esprit nous a été donné pour vivre notre quotidien, notre travail. Et tous les rapports d'autorité dont il va nous parler après, les rapports relationnels, homme-femme, mari-femme, pour ça que je ne parle pas d'autorité, même s'il y a une notion d'autorité, d'accord ? Mais comme on n'a pas le temps de l'exprimer, ça va être mal pris, donc ce rapport-là, homme-femme. Enfant, parent, on a besoin du Saint-Esprit pour cela. Esclave, maître. Dieu nous a équipés pour travailler. Il ne nous a pas équipés seulement pour venir chanter. Il ne nous a pas seulement équipés pour lire la Bible. Il ne nous a pas seulement équipés pour prier. Il nous a équipés pour vivre notre quotidien, notamment l'activité dans laquelle on va passer le plus clair de notre temps durant notre vie sur terre, notre travail. Et Paul nous dit, soyez remplis. On a une certaine responsabilité ici, d'être à l'écoute du Saint-Esprit, de nous laisser conduire par lui pour le servir dans notre activité quotidienne. Et pas simplement être assis en priant pour qu'il vienne, mais de l'écouter et d'obéir, afin de, serviteur, obéissez à vos maîtres. Maître, faites ce qui est juste, rendez ce qui est juste à vos serviteurs, accordez vos serviteurs ce qui est juste et équitable, afin qu'en cela, par la transformation et le pardon accordé en Jésus-Christ, par l'équipement du Saint-Esprit, vous puissiez servir le Seigneur dans votre quotidien. Question, est-ce que je suis à l'écoute du Saint-Esprit pour aller travailler demain ? Est-ce que je prends au sérieux ce que Dieu nous dit pour m'occuper de mes enfants à la maison ? Pour bien utiliser mon temps en tant que chômeur ou retraité ? Ou pour aller à l'entreprise demain, à l'écoute du Saint-Esprit pour le servir dans mon activité. Je vous invite à prier.